Et nous reprenons avec cette deuxième partie de Radio Rollist. Et pour commencer celle-ci, c'est Mickaël qui va s'y coller, notre Jedi.
Oui, Jedi, c'est vite dit. Hein. Alors, je vous ai parlé il y a quelques mois maintenant, ça remonte à pas mal de mois.
Oh, ça va. Hein.
Voilà. De Star Wars aux confins de l'Empire, parce que je sais pas le dire en anglais, c'est trop compliqué pour
Edge.
Mon petit...
Edge.
Ah non, bah,
Edge of Empire.
Faut le dire vite en fait. Edge of Empire.
Plus tu le dis vite, et mieux ça marche.
Je vous avais fait la critique de la boîte de base et depuis ce temps, je l'ai fait jouer. Et donc du coup, voilà ce que j'en pense à posteriori.
En deux minutes, tu peux nous résumer ce que t'en pensais avant peut-être parce que.
Ouais. Alors ce que j'en pensais, c'est que c'était une excellente boîte d'initiation pour se faire une idée du jeu, avec tout le matos qui était fourni, un scénario qui était relativement linéaire, mais qui remplissait tout à fait sa tâche en étant progressif, pédagogique pour apprendre le système de Star Wars Edge of Vampire, qu'il y avait vraiment du matos, qu'en plus il y avait du matos gratos à télécharger, une mini campagne de 48 pages sur le net gratos, mais qu'il fallait quand même penser à acheter un deuxième set 2D, parce que, ou l'application par téléphone pour pouvoir le faire. Voilà très rapidement ce que j'ai dit. L'ayant fait jouer là il y a quelques semaines, je rajouterai deux choses. Donc la première, en effet, acheter un deuxième set de dés, c'est indispensable, c'est ce que j'avais fait. À mon avis, l'application sur téléphone, oubliée.
Ah oui,
c'est... Ah non, franchement non, oubliée. Parce que quand on constitue son pool de dés, c'est quand même beaucoup plus facile et rapide de prendre les dés et de le constituer. Alors ça coûte plus cher, alors, c'est vrai.
T'avais la même sur Warhammer.
Oui, oui.
Sur Warhammer 3, elle était déjà pas bien.
Ah non, mais c'est, sur Warhammer 3, c'est encore pire parce que c'est, vraiment, c'est pas possible. Mais bon, là, voilà, à l'usage, je dirais non. Le scénario que je pensais qui était très linéaire et que je trouvais assez archétypal, au final, j'ai fait jouer à des vieux routards, ça fonctionne du tonnerre. Après, le MJ brode en inventant des PNJ, des machins sur place, ça va très bien. Je trouve juste inutile qu'ils aient fourni la carte de Mos Chuta, donc cette ville dans Tatooine où se passe le scénario avec le hut auquel le hut qui veut leur mettre la main dessus avant qu'ils se barrent.
Ils n'avaient pas le droit sur Mos Eisley ?
Non, c'est pas Mos Eisley. Non, ils n'avaient pas le droit peut-être. Bah, mais je trouve que faire la carte n'est pas très utile, d'une part parce que vous voyez que le Mos Chuta c'est tout petit. Certes, savoir vers où vous voulez aller, vu que c'est scénarisé en allant du point A à un point B, un point C, voilà. Je pense pas que la carte est nécessaire. Voilà, ça c'était le truc. C'est la carte de la cantina est vraiment indispensable. La carte du vaisseau est vraiment pas indispensable, mais elle est utile pour la suite de la campagne. Vous allez au-delà.
On dirait un faucon millénaire.
Voilà, donc la carte de Mos Chuta, pareil, c'est plutôt pour la suite.
T'as une cantina, t'as un vaisseau de transport direct 1300.
Et la tour de contrôle du spatioport.
Ça fait très.
Ça fait très quand même, oui. Voilà. Ça nous rappelle des choses.
Voilà.
Et tu dis qu'il y a un hut dans la cantina
pas dans la cantina. C'est lui qui dirige la ville et c'est lui qui veut votre peau.
C'est ça, c'est pizza.
Ça me dit quelque chose. Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Donc ça fonctionne très bien. Les PNJ. Les prétirés qui sont fournis avec leur background, ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien pour la suite. Donc le scénario, en une soirée, moi je l'ai plié, 3h30, 4h en tout cas, c'est explication de règles comprises, parce que voilà, ça fonctionne bien. Les combats, c'est progressif, ça marche très bien, les impériaux à la fin, ça fait mal, ça peut vraiment faire très mal. Voilà. Après, quels sont les axes qui s'offrent à vous? Parce que moi, mes joueurs, évidemment, ce sont des vieux joueurs, des vieux routards qui n'avaient pas joué à Star Wars depuis très longtemps, du système D6. Ils ont vachement accroché, ils veulent la suite. Donc, qu'est-ce qui s'offrait à moi? Trois possibilités. La mini-campagne téléchargeable gratuitement sur le net, The Long Arm of the Hutt, donc, qui fait la suite logique de ce scénario-là. Vous avez réussi à vous enfuir de la planète, vous avez mais le Hutt, il n'est pas content et il veut vous poursuivre. Donc, vous avez récupéré un vaisseau et vous venez juste de passer en hyperespace, et à l'endroit où s'arrête le scénario... de la boîte de base reprend la campagne avec vous allez découvrir le vaisseau avec quelques petits trucs qui se passent.
C'est des scénarios originaux, j'imagine.
Le scénario de la mini campagne, il est vraiment très sympa. Sans trop déflorer, disons que vous allez trouver qu'il y a, vu que c'est un chasseur de primes à qui vous avez piqué le vaisseau, en fait il se trouve qu'il y avait une de ses primes qui était dans le vaisseau et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe et aller l'aider.
Piquer le vaisseau du chasseur de primes, putain, c'était un scénario Star Wars D6, mais genre l'un des premiers quoi. ils ont pas juste repris le scénario.
Non,
parce que moi je l'ai joué. Ça, hein.
Ouais, non, c'est un scénario, donc voilà, nouvellement écrit. Et...
Mais voler un vaisseau, ça se fait dans toutes les parties de Star Wars, non?
Oui.
Non, mais justement, je me demandais si c'était pas genre, tu vois, le scénario de base, quoi.
Non, c'est rien à voir. Et la mini-campagne qui va derrière, ce qui est intéressant, je trouve, c'est exactement la même approche que dans Warhammer 3, c'est des scénarios assez ouverts. La mini-campagne de 48 pages est super ouverte avec. Ça se résout pas que par le combat, clairement. Il y a de la négo, il y a des phases où récupération d'informations, il y a plein de choses, ça marche très bien. Donc la mini-campagne de 48 pages qui fait la suite du scénario, elle fonctionne très bien. C'est classique, mais ça marche très bien. Après, vous avez deux possibilités. Vous avez le scénario de l'écran du jeu du livre de base. Il y a le livre de base de 488 pages, je crois. Et vous avez l'écran en carton ultra dur.
Oui, qui a l'air de très bonne qualité.
Qui est de très bonne qualité, comme ce qu'ils ont fait sur Dark Heresy et compagnie. Et il y a un petit livret avec qui est fourni avec une aventure qui tourne aussi autour d'un hut. Mais pas le même et pas la même optique. C'est vous devez une faveur à un hut et il vous envoie en mission pour lui. Il vient de gagner un jeu de sabbat, une partie de sabbat, il a gagné une mine et il vous envoie là-bas pour aller récupérer les thunes qu'ils ont fait. Bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et franchement, ce qu'ils ont fait autour de cette mine, ça change, ça a rien à voir avec le scénario, la mini campagne. Ouais. Ça fonctionne très très bien. Il y a une mini révolte sur place. Il se passe des choses.
D'accord.
Et pour une fois, on n'a pas des impériaux ou des races extraterrestres en face de nous. Donc ça change un petit peu.
Ok.
Je peux pas trop vous raconter, mais voilà, ça le fait très bien. Et je me rappelle plus combien ça coûte, mais ça doit être 15 ou 20 euros pour cet écran tout dur. Et y a un, voilà. Oh merde! Oh non, non.
Allez, continue, enchaîne.
Et à la fin, il y a un petit chapitre, quoi, un petit chapitre, oui, il y a peut-être 6 pages sur les Némésis, le okay. méchant récurrent, comment réfléchir à ça sans vous donner de caractère, mais vous donnant des pistes en s'appuyant sur les livres de base. Donc c'est plutôt bien fait.
D'accord.
Et ensuite, il y a l'autre possibilité, c'est une campagne qui est sortie qui s'appelle Beyond the Rim. Qui change encore d'axe, pour une fois, on parle plus de hut, même si les deux axes et deux scénarios parlaient de hut, mais sur différents axes. Là, ce qui se passe, c'est que les joueurs sont recrutés. Il y a une capsule qui est arrivée, qui a mis 20 ans pour arriver. Quoi, on l'a mis 20 ans pour la trouver. Et il y a un vaisseau disparu qui est devenu un petit peu mythique, où au moment où l'Empire s'est installé, il s'est barré vite avec, on dit, des trésors pleins de thunes, des trésors cybernétiques, des machins, des bidules.
D'accord.
Et jamais personne ne l'a retrouvé. Il s'est perdu en route. Il a été attaqué par les impériaux. Il a fait un saut dans l'hyperespace et on l'a plus revu. Et cette capsule va permettre de savoir où il est localisé. Donc, du coup, il y a un mec qui est là et qui engage les joueurs pour aller sur place. Alors, ça veut dire pas mal de choses. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à chercher cet endroit-là, à chercher ce vaisseau-là qui est censé avoir des merveilles. Et ils vont se retrouver à aller sur une planète plutôt hostile, très hostile, un peu jungle, mais avec des créatures vraiment pas cool.
D'accord.
Et voir ce qui s'est passé, de ce qu'il est devenu de ce vaisseau. Donc voilà, c'est aussi du classique. Mais voilà, c'est la troisième possibilité que vous avez. Objectivement, si vous avez envie de limiter les frais, moi, je vous conseille la boîte de base, un set 2D et la mini-campagne gratuite, déjà.
D'accord.
Simplement, ça fonctionne, ça suffira. Si les joueurs ont accroché à la sortie du scénar, en plus, comme ça fait la suite logique, c'est très très bien. Et vous n'avez rien à payer, ce qui est encore mieux.
La mini campagne, elle fait combien de séances à peu près?
On va l'attaquer. Là, à mon avis, il y a bien 6 séances, je pense. Hein. Il y a moyen d'en faire 6 séances. Non, c'est gros. Ça, il fait 48 pages. La mini campagne, elle fait 48 pages. Non, il y a matière, et puis là, il y a ce qu'il y a écrit, il y a les situations de base, et il y a ce que vous allez en faire. Moi, à mon avis, oui, 6 séances, ça me paraît plus sérieux, peut-être même un peu plus. Alors que le scénario de l'écran, je pense qu'il y en a pour 3 séances, je pense. 2-3 séances, ça va dépendre comment, parce qu'il y a beaucoup de PNJ avec des motivations. La situation peut vraiment s'envenimer sérieusement.
D'accord.
Sur la mini-campagne de 48 pages, il y a 3 axes. Donc aller sur place pour aider le gars, résoudre une situation sur place, et après revenir pour aller un peu quoi, déjouer les plans du hut, et après revenir et puis essayer de péter sa putain de gueule à ce connard. Voilà. Et sur le Beyond the Rim, là, ouais, j'aurais du mal à dire, mais il y a au moins 10 sessions, si ce n'est plus.
D'accord. Ah ouais.
Donc voilà, vous avez de la matière. Ce que j'aime bien, moi, ce que j'avais adoré de la gamme Warhammer 3, c'est que les scénarios, il y avait vraiment matière à. Et là, je trouve qu'en très peu de temps, il y a déjà beaucoup de matière pour Star Wars Edge of Empire. Mais par contre, si vous voulez vraiment donner un petit peu de marge de manœuvre à vos joueurs, même s'ils ont joué les pré-tirés de la boîte de base et que vous faites la mini-campagne, si vous hésitez et que les joueurs ont vraiment envie de s'investir un petit peu, faire un personnage sensible à la force et tout ça, vous allez devoir acheter le livre de base. Parce que pour les règles de sensibilité à la force ou les pouvoirs de la force, ou des choses comme ça, parce que vous avez toujours un joueur qui veut jouer un sensible à la force,
oui.
Genre un Wookiee qui est sensible à la force, qu'on peut le faire, on peut le faire maintenant. Forcément, voilà. Donc je pense que j'ai vraiment été convaincu par la gamme. La boîte d'initiation donnait vraiment bien le ton. Et je trouve que l'essai est véritablement transformé. Donc voilà. Voilà ce que j'en pensais, messieurs. Dame.
Ok.
Merci.
Nous allons tout de suite passer à autre chose. Avec enfin, ouais. Enfin...
Le jeu surprise de la soirée.
C'est ça, c'est bien. Moi, j'annonce des trucs et en fait, on ne s'en rappelle pas. Avec Dogs in the Vineyard. Et non, parce que moi aussi,
Vineyard.
Fou que j'étais. Et parce qu'effectivement, Divine, etc. Bah, oui, ouais. La fameuse chanson « Like a candle in the vine ».
Absolument.
Énorme, énorme.
C'est pas ça.
Oh putain.
Bon, et donc du coup, j'ai soutenu aussi Mordicus que c'était Vine, et je suis allé sur un site internet où on prononce les mots, et c'est donc Vineyard.
D'accord. Bah écoute, je me recouvre la tête de sang.
Non, mais je pense qu'on mettra aussi un lien.
Mec est docteur quand même, celui qui vient d'expliquer.
Ouais,
c'est la honte.
Tant que c'est ton sang, il y a pas de problème.
J'en tire les conclusions qui s'imposent.
Non, et tu retires la politique.
On mettra aussi un lien. Donc c'est Dogs in the Vineyard, c'est un jeu de Vincent Baker, hein, encore lui, donc Apocalypse War des compagnies, il l'a fait avant Boys Apocalypse War. Édité par Lumplay Games. Donc,
C'est son premier jeu, non, d'ailleurs.
Je crois que oui. Hein. Ouais, je crois qu'en effet, c'est son premier.
Alors, ce jeu vous propose de jouer, on va dire, les chiens de garde de Dieu, chargés de préserver les croyants dans le rude univers frontalier d'un pseudo-Utah du milieu du 19e siècle. Donc schématiquement, on peut dire que les personnages sont des shérifs mormons. Hein, c'est quand même la version la plus simple. Ou éventuellement des paladins avec des six coups, si vous préférez. C'est un cadre qui permet d'avoir des personnages avec des fortes convictions et une lourde mission. Il y a du péché dans la ville, la porte est ouverte aux démons, et il faut y mettre le holà. Donc le jeu, par son système global, permet de se poser la question jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vos convictions. Et quand je dis « où », ça veut dire jusqu'à quel degré de violence. Les mots, les poings ou une balle dans la tête. Du coup, c'est pas un jeu d'enquête du tout. Savoir que Frère Gébédia, c'est un cannibale qui porte des dessous féminins, c'est pas ça qui compte. Il n'y a pas de trouver objet caché ou truc comme ça, quoi.
C'est du vécu.
Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire pour régler le problème. Donc en fait, voilà, le faire arrêter de manger ses frères et sœurs de congrégation, ça va être l'enjeu d'un jet de dés dont je vais vous exposer la mécanique. Alors voilà. Un personnage est défini par quatre caractéristiques: acuité, cœur, corps et volonté. Selon l'approche qu'on choisit pour atteindre un enjeu, on cumulera d'autres de ces caractéristiques pour obtenir un pool de dés initial. Mettons que j'essaie de convaincre un jeune homme qu'il ne peut pas se marier avec sa sœur, parce que bon, c'est pas très bien, je vais commencer par causer. Mon pool, ce sera donc basé sur mon acuité et mon cœur. Le jeu utilise tout type de dés, hein, du dé de 4 au dé de 10, mais pour les caracs, on part sur une base de dé de 6. Donc là, j'en jette une bonne poignée pour entamer le conflit, et puis le MJ fait de même de l'autre côté avec le pool de son personnage. Gagner en enjeu, en fait, ça va être une course d'endurance. Donc avoir de nombreux dés, c'est déterminant, mais il y a des résultats élevés qui peuvent permettre de renverser la balance, en fait. De manière très séquentielle, une fois qu'on a acheté ces dés, on va découper l'action. Je veux dire grossièrement que c'est des phases un peu d'attaque et de défense, même si c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait approprié comme définition, quoi. Et donc ces phases, elles vont s'enchaîner, et celui qui aura le dernier mot, bah, c'est un peu celui à qui restera des dés à la fin et qui pourra encore attaquer. Chaque attaque, ça va être en fait une description de ce que fait le personnage pour atteindre son enjeu. Si dans ce qu'il décrit, par exemple, il fait appel à d'autres éléments de sa fiche, comme des traits, par exemple, s'il est fort comme un bœuf et qu'il est en train de péter la gueule à quelqu'un, bah, son trait va entrer en jeu. Mais ça peut être aussi simplement qu'il se considère comme étant l'émissaire du seigneur de toute vie, ou un truc de ce style-là. Il peut aussi avoir des relations, s'il s'en prend à quelqu'un qui fait partie des relations qui sont sur sa fiche, ou s'il le défend, il pourra rajouter ces dés-là aussi. Ou ça peut être aussi du matériel, genre Betsy, ma grosse carabine. Et donc, à partir du moment où il les fait intervenir dans la narration, il peut rajouter ses dés, les jeter, et donc augmenter son pool de dés tirés. Une fois que ça c'est fait, il choisit deux dés dans tout ça, et c'est en gros, la somme de ces deux dés, ça représente un peu la force de sa description. Qui peut aussi bien être, bah voilà, je te tire dessus, que simplement je sors mon fusil pour te montrer que je ne vais pas tarder à l'utiliser. L'opposant, maintenant, il doit contrer, et le nombre de dés qu'il va utiliser devient très important. S'il arrive à contrer avec deux dés, on dit qu'il bloque ou il esquive. Donc il peut ensuite enchaîner une attaque à son tour avec les dés qui lui restent. S'il contre avec un seul dé, on dit qu'il retourne le coup. Ce dé unique, il n'est pas perdu pour la défense, il est réutilisé pour l'attaque. D'accord. Ce qui veut dire en fait que on a économisé deux dés en tout. Donc dans un truc d'endurance,
il y a de la prise de risque en fait.
Bah c'est pas trop, ouais. C'est-à-dire que si tu vois l'adversaire qui garde un gros dé bien de côté, tu te dis bah à un moment donné, enfin ça peut faire un petit peu peur quoi.
Il y a du bluff et de la prise de risque et de la récompense en cas de prise de risque.
Ouais, on va y revenir. Et dans le pire des cas, s'il faut 3 dés ou plus pour contrer, donc admettons que j'ai un score de 7 et j'ai que des 1 moi dans ce qui me reste pour contrer, on va dire qu'on encaisse le coup, c'est-à-dire que l'argument de l'attaque il peut pas être nié, même si le défenseur peut continuer la lutte derrière, et en gros on va y perdre plein de dés. Donc ça risque d'être assez fatal. Encaisser, ça veut dire qu'à l'issue du conflit, surtout, va y avoir des retombées, plus ou moins graves selon l'intensité du conflit. Voilà, un conflit, ça finit donc faute de combattants.
Qu'est-ce que tu appelles des retombées?
On va y arriver.
D'accord.
C'est un gros élément du jeu, parce que c'est vraiment par là que tout le changement, toutes les modifications du personnage interviennent, en fait.
Ouais. Je me permets une première remarque, mais t'allais peut-être en parler après, c'est que, parce que je, pour une fois qu'on parle d'un jeu auquel j'ai joué, dans la manière dont l'OMJ me l'avait présenté, c'est que quand il y a un conflit, donc en général il est verbal, mais si tu foires trop, il y a un moment où tu es obligé de recourir à la violence.
Bah bien sûr, tout ça je vais y venir. Et sauf que je dirais que tu peux commencer un conflit de manière non verbale. Tu pourras très bien commencer par tirer quelqu'un dessus et après dire « Bon, maintenant que j'ai ton attention, on peut parler. »
D'abord on frappe et ensuite on discute.
Mais c'est tout à fait possible. Et c'est peut-être... Et le pire, c'est que c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faudrait le tester. Bon.
Je mets les pieds où je veux, Braddock. C'est souvent dans la gueule.
Alors bon, le conflit, ça finit donc faute de combattants quand il n'y a plus de dés pour se défendre ou quand quelqu'un abandonne. Ce qui permet par exemple de sauver un dé pour une éventuelle rencontre ultérieure. Quoi. Donc ça aussi, tu peux avoir un petit peu de tactique là-dessus. Genre, ouais, c'est bon, tu gardes ton PNJ, tu gardes un joli dé bien élevé pour faire peur au PJ, et à la fin tu dis, c'est bon, je me couche. Et tu gardes ça pour le dé plus, pour un futur enjeu. Mettons que par la parole, j'ai pas réussi à convaincre le frère de pas épouser sa sœur. Le système va me tenter en me proposant d'intensifier le conflit. La parole n'a pas suffi, mais pourquoi est-ce que tu ne rajoutes pas le poing à tes mots? Ou le couteau, ou le fusil. Les ajouter, ça permet de renforcer le pool de dés existant avec des nouvelles caracs, avec des nouveaux traits, avec des nouveaux équipements. Bref, c'est un moyen de se refaire quand on est en passe de perdre. Et tout ça pour un coup modique. Il suffit d'intensifier le conflit et d'augmenter les risques liés aux retombées quand il sera fini.
Toute la famille est morte.
C'est juste du « mais vas-y, allez, tu vois, c'est bête, tu rates de peu, faudrait... » Est-ce que tu mets un petit peu plus de force, un peu plus de conviction?
En Wasberg aussi, en absolu.
On doit avoir ça aussi dans les Chip Tales, un truc comme ça. Tu peux choisir de revenir un petit peu sur la scène, mais cette fois-là, si tu retombes à zéro, tu meurs pour deux points.
Okay.
Mais sinon, tu finis juste.
Oui, mais là, c'est
un peu différent, on va dire.
Sa vie qui risque, c'est plutôt sa morale ou son âme.
Ça peut être un peu tout. Les retombées, justement, comme je disais, c'est les facteurs d'évolution et de changement du personnage, mais c'est en bien comme en mal. Selon l'intensité du conflit au moment où on a encaissé des retombées, donc parole, acte physique, violence physique ou carrément arme à feu. L'arme à feu, c'est le nec plus ultra. Hein. En fonction de ça, en fait, on jette des dés plus ou moins gros. Donc si j'ai parlé, en fait, jette des dés de 4. Si j'ai sorti le fusil, je tire des dés de 10. Et on jette un nombre de dés qui est égal à celui qu'on a noté quand on a encaissé le coup. Donc si j'ai encaissé des insultes avec 3 dés à un moment donné dans le conflit, ma retombée, c'est 3 dés de 4. Si j'ai encaissé le coup d'un échange de balles avec 5 dés, je jetterai 5 dés de 10. Et si j'ai eu les 2 dés de 2 dés, par exemple, pour mes retombées, je jetais 3 dés de 4 plus 5 dés de 10. Et tout ça pour garder les deux plus gros scores. En fonction des résultats, le personnage peut évoluer positivement, genre je vise mieux. Négativement, genre j'ai perdu un genou, donc mon niveau corps va baisser. Ça peut être dans les opinions, genre je déteste les cannibales, c'est un nouveau trait que je gagne. Dans l'importance qu'on va accorder à d'autres personnages, on peut très bien dire qu'à la fin, à l'issue du le shérif machin contre qui j'avais rien de spécial, à l'issue de ce conflit, du coup, je gagne un point dans la relation que j'ai avec lui, qui me servira donc contre lui ou quand je le défends, etc. On peut être blessé aussi, voire mourir sur le coup. Ce qui peut être rare, parce que faut faire un 20 naturel. Mais quand on commence à sortir plusieurs coups, quand il y a pas mal de retombées liées aux armes à feu, etc., ça peut arriver. Et même au-dessus de 16, je crois déjà, on commence à être blessé. Sur ma partie test, il y a déjà eu un mort. Donc,
t'es un trop bon vendeur. Tu vas pas t'arrêter là.
Non, mais c'est pas grave, t'en prends un autre.
Sans la dynamite.
Ouais,
vas-y.
C'est ça. Non, mais ça, c'est. Ça, je vais y venir. Ouais. C'est moi qui ai poussé le conflit, entre guillemets, parce que je voulais pas que mon PNJ lâche. Parce que du coup, t'es obligé toi aussi avec tes PNJ de dire attends, c'est bon, je vais pas me coucher quoi. Dis donc, sinon le scénario il est fini là. Tu crois pas que tu vas résoudre les problèmes comme ça? Moi j'envoie des gars pour te poignarder dans la rue la nuit et ça marche. Maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on crée une ville dans le jeu. En fait, créer une ville, ça veut dire créer des problèmes. Il y a un cheminement qui est exposé dans les règles et qui te dit comment est-ce qu'en partant de la foi qui est exposée dans le jeu, qui est exposée pas en détail en fait, hein, c'est un peu tu crées ta propre foi. T'as des principes généraux donc qui ressemblent aux mormons, genre polygamie, respect du société patriarcale et compagnie, etc. Il y a des choses qui sont établies, mais il y a plein de flous qui sont...
Sachant que Baker est un ancien mormon, et
voilà,
c'est un petit peu son coming out, ouais. Je ne suis plus mormon.
Il te propose même, il dit voilà, si t'as envie, tu le joues à la histoire de fantôme chinois, quoi. Ouais. Avec, avec des démons qui possèdent les gens, en volant au milieu de la grange, etc. Et que tu lui balances la fourche en pleine gueule, il n'y a pas de problème pour jouer... Bon, donc on part sur une base, on a de la fierté, donc c'est l'idée qu'on mérite mieux qu'un autre, ou que certaines lois ne s'appliquent pas à soi. si on a assez de fierté et que ça, pour passer à l'action, en fait, ça entraîne une injustice sous la forme d'un péché, bon, sexe, violence, machin, etc. La présence du péché, ça devient une porte ouverte aux démons. C'est des créatures immatérielles qui vont se manifester plus ou moins subtilement. Pluie de sang.
Subtilement.
Ou alors, mauvaise récolte. Hein, ou alors, hein, il n'y a plus d'eau dans le puits. Les démons sont là. Le péché, ça entraîne aussi de la culpabilité chez celui qui le perpètre, en fait. Hein. Et comment calmer la culpabilité? Bah, en justifiant ses propres actes, donc en se créant une fausse doctrine. Genre, mais on peut avoir un deuxième mari pour une femme si, du moment que personne ne le sait. Voilà. Et du coup, il n'y a plus de problème. Et du coup, si cette fausse doctrine elle se répand, bah, on se retrouve avec un faux culte mené par un faux prêtre qui est en fait un sorcier. Et le sorcier, même s'il ne le sait pas, les démons vont aller dans son sens. Parce que le but des démons, c'est de continuer de faire empirer l'hémorragie jusqu'à ce qu'il y ait de la mort, de la haine et compagnie, etc. En servant de ce cheminement, en fait, le MJ peut créer progressivement sa ville en y développant la gangrène. Bien évidemment, on ne met pas qu'un péché, parce que chaque truc va créer des petits corollaires, des petits machins à côté. Plus on va loin dans ce cheminement, plus les démons sont puissants en cas d'affrontement avec les PJ. Affrontement indirect, évidemment, par le biais de possession ou en étant au service du sorcier. Oui, ça peut être aussi quelque chose. Ça diminue aussi fortement les chances de survie aux blessures. En fait, quand tu essayes de survivre à une blessure, l'influence démoniaque de la ville fait partie de la difficulté.
D'accord.
Tu peux même te dire qu'à ce moment-là, si t'as pas d'idée pour un jet de dés, tu peux partir sur une base de un pool de dés plus l'influence démoniaque. Ouais. Et un truc que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, la puissance du démon, elle est proportionnelle à la connaissance que les joueurs en ont. C'est-à-dire qu'un dogs qui impute un meurtre au démon, et qu'il est un peu au stade ultime, si tu veux, il a une opposition plus forte que quand il avait juste observé le péché d'adultère dans la ville, quoi.
Oui.
Là, tu constates le péché, attention, et quand tu en arrives au stade, dire ah merde, on en est déjà au niveau où il tue des gens, et bah toi, tu affrontes une difficulté plus élevée, quoi. Évasivement, l'univers, comme je disais, il y a un champ assez large selon la part qu'on veut mettre de fantastique ou pas. Il y a aussi toutes les notions de rituels qui vont être données, genre je te mets de l'argile sacrée sur le front et compagnie, je t'appelle par ton nom, j'invoque les anciens. Qui peuvent avoir leur petit côté un peu lié au surnaturel, parce que quand on...
Je porte des dessous et je mange mes frères et sœurs.
Non, ça c'est peut-être un des rituels. Ça, je pense que tu as un peu corrompu le truc.
Oui, je suis allé un peu loin là.
Mais élément intéressant, en fait, les personnages qu'on joue, donc des dogs, sont vraiment au-dessus des autres dans la société.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur les gens de la communauté.
Parce qu'ils je reviendrai tout à l'heure.
Parce qu'ils sont là, ils sont là pour sauver la branche entre guillemets. Donc ils sont vraiment là pour sauver la communauté.
Sauver l'arbre, ils sont prêts à couper la branche pour sauver l'arbre.
Voilà, en fait, oui. On va dire une congrégation, en fait, c'est une branche. C'est une branche de l'arbre, ouais. De la vie et compagnie. Et en fait, il y a un gardien, un intendant qui s'occupe d'elle. Lui, il est là pour s'occuper de tout le monde, pour être sûr que... c'est un peu le gars de l'orientation, quoi, si tu veux. T'es sûr que... Enfin, en même temps, il n'a pas beaucoup de carrière à proposer, puisque c'est fermier mormon pour tout le monde. Mais dans le principe, là, c'est un peu ça. Hein. T'es sûr que tu veux pas te marier qu'une deuxième femme? Parce que j'ai que ça à te promettre dans la vie. Hein. Donc, bon, mais lui, il est là un peu pour s'assurer, voilà, pour faire un peu du coaching et tout, l'intendant. Mais à partir du moment où il a un trop gros problème et que le dogs arrive et il lui dit, bah, tu vois, il y a machin truc muche qui... il aime pas venir à la messe. Enfin, il aime pas... Il assiste pas trop aux trucs de la communauté. Il est un petit peu indépendant et compagnie, bah, c'est toi l'indépendantiste. Voilà, le dogs, lui, il a à sa charge de résoudre le problème. Et un truc
t'as pas vu à l'office.
un truc que je trouve intéressant. Les autres, même un dogs n'a pas de compte à rendre aux autres dogs de base. Alors à la limite, si dans la fiction, si dans le jeu, il y a un moment donné où tu estimes que un autre gars a 30 des comptes, c'est parce que Dieu te l'a dit, quoi. Donc ouais, c'est à toi de gérer ton épreuve. Mais de base, si quelqu'un est en train de faire et de gérer un problème de la ville d'une manière qui te paraît complètement démesurée, bah t'as rien à dire parce que c'est Dieu qui lui a dit, quoi. Voilà, donc débrouille-toi après si Dieu te dit autre chose, si ta conscience en fait te dit autre chose.
Et oui, grand pouvoir, grande responsabilité, tout ouais, ça, tout
voilà.
Ça.
Voilà.
Bon,
mais c'est vrai, on joue des personnages de pouvoir.
Ouais. Ouais, ouais. Dans la série, on peut. Les petites remarques, voilà le truc que je trouve intéressant, c'est que la valeur des traits, ça représente l'importance qu'on leur donne. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai boiteux à 2D de 10, ça sera techniquement plus avantageux que bonne gâchette à 1D de 6. Et ça montre juste que je vais avoir intérêt à placer, le fait que je sois boiteux, quoi, tout simplement. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que j'ai envie de mettre au premier plan dans mes scènes. Est-ce que j'ai envie de raconter que mon gars, bah, il a ses lunettes et que, bah, voilà, c'est en plein duel, ses lunettes tombent au sol et compagnie, etc. Même si c'est pas quelque chose qui va impacter positivement, théoriquement, mon acte. Ça va pas m'aider, au contraire, ça va dire que ça m'a handicapé. On s'en fout, c'est pas ça qui compte. C'est on donne la valeur des dés, leur niveau élevé, entre guillemets, ça monte l'exposition en fait qu'on a envie d'avoir par rapport à cet élément.
Donc c'est la valeur de plan de la caméra en fait.
C'est un peu ça, ouais. Donc c'est une idée qui est un peu, c'est intéressant, c'est un peu déroutant au démarrage. Tu dis non mais vas-y, joue ton boiteux de D10 quoi. Mais c'est pourri, j'ai pas envie de boiter. Mais si, parce qu'en fait à partir du moment où tu le rajoutes dans la narration, tu gagnes ces dés. Il s'ajoute à ton pool.
Je me souviens que j'avais un perso qui avait un très beau chapeau. Et que, oui. Donc mais je mettais ça dans certaines scènes.
Ouais, mais, ouais, mais c'est cool, c'est un objet. En fait, ouais, c'est un objet de, c'est un chapeau de bonne qualité. Parce que c'est ça, en fait, pour le matériel, par exemple, c'est très simple. Hein. Si c'est un objet normal, c'est genre tu gagnes un D6. S'il est pourri, c'est un D4. Et s'il est de très bonne qualité, c'est peut-être de D6 ou un D8, je sais plus quoi. Et ça marche pareil pour les flingues. Quoi. Tout à l'heure, on disait il y a un petit côté tactique, stratégie, etc. Bah, y a un petit avantage pour le matheux hein, qui peut assez rapidement voir vers où va le conflit. C'est cool pour le MJ parce que ça peut direct le permettre de se focaliser sur des idées de coups, entre guillemets, et de contre-coups. Il y a un séquençage qui est extrêmement fort de l'action, par contre. Alors ça peut ne pas plaire à toutes les tables. Moi, ça a bien calmé chez moi.
Ouais, moi aussi.
Ça coupe complètement le roleplay en plein milieu parce qu'à un moment, tu es en train de faire du roleplay et tout. Puis tu dis, attends, on n'est pas en train de résoudre un enjeu, là. Et du coup, attends, rewind, jette tes dés.
Ouais, ça, et c'est vas-y. Exactement comme dans les Cortex Plus et tout.
Ouais, et là,
ça
oui, peut
couper la trique un peu.
Ouais, ouais. Et le... Ouais, c'est vrai que c'est ça, ça calme un peu, et c'est du style, attends, garde ton argument là, on jette les dés, maintenant replace ton argument dans la conversation et prépare le prochain pour te défendre. Ouais. Et ça, bon. Les notions d'attaque et de défense, elles sont à prendre au sens large, hein, comme je disais tout à l'heure aussi. Hein, c'est, je te tire dessus, ça peut être une attaque, mais ma défense, ça peut très bien te dire, le soleil t'éblouit. Voilà, donc c'est vraiment de la narration séquencée, entre guillemets. Pour les PNJ, je trouve qu'il y a un petit problème aussi, soit on fait les versions de base, qui est très vite corrigée, donc avec des fiches complètes qui sont assez fastidieuses, des suivis de conflits assez fastidieux, donc très rapidement, on passe aux fiches allégées, et les fiches allégées, c'est un peu illusoire, parce qu'en fait, c'est des pools de dés, genre tu mets telle pool de dés pour la première phase du conflit, tu rajoutes telle pool de dés pour la deuxième phase du conflit, etc.
Il n'y a pas un truc entre les deux ?
Bof.
D'accord.
Voilà, ouais. Donc en fait, c'est un peu, pour ainsi dire, je pense qu'on pourrait tirer des dés au pif. Ouais, et puis le MJ, en fait, il envoie tout d'un coup, si tu veux, alors que le PJ rajoute des traits progressivement. Et du coup, ça fausse aussi ta vision, la vision que tu peux te faire à peu près sur est-ce que ce conflit, je vais le gagner ou pas. Comme le PJ, lui, peut rajouter des traits progressivement et ainsi de suite, au final, je pensais que les PNJ étaient assez costauds. Et dans la pratique, c'est plutôt les PJ qui les éclatent, quoi.
Ouais, mais ça c'est voulu, enfin c'est pas un effet.
Je sais pas, parce qu'il faut arriver quand même à les pousser quoi. Le but du jeu c'est quand même de les pousser dans leur retranchement. Et justement, bah tiens, j'arrive à mon dernier point, le problème de la longueur du conflit, puisque ça peut se passer dans le temps. Un enjeu étant très important, si un PNJ ne veut pas accepter la situation, il a pas toujours la possibilité d'agir violemment sur place quoi. Genre, t'agresses un gars avec un espèce de commerçant, tu le convaincs par la parole qu'il faut qu'il arrête de, je sais pas moi, il fout du plâtre dans le sac de farine parce que ça coûte moins cher, etc. Bon, il faut dire que c'est pas bien. Bon, le problème c'est que lui, son business, ça lui permet quand même de gagner de l'argent et ainsi de suite. Et tu le convaincs par la parole, mais toi MJ, t'as pas envie. C'est trop facile, entre guillemets, pour le joueur. Quoi. Il a déjà gagné son enjeu. Bon, faut essayer de le faire durer un petit peu.
Ça, c'est des enjeux mineurs.
Bah ça dépend.
Ou est-ce que ça peut être un enjeu majeur, genre le mec il bouge du plâtre et s'il arrête
ça peut en fait parce que si tu
il y a peut-être de la drogue dans la farine parce que le mec il a
enjeu mineur ou enjeu majeur en fait entre guillemets c'est pareil si tu te bats pas pour tes enjeux toi MJ de ton côté c'est pareil t'arriveras pas à avoir la réponse aussi des joueurs de l'autre côté et du coup bah ce que je fais avec le commerçant c'est que par exemple le soir il t'envoie des gars pour te casser la gueule donc on poursuit l'enjeu on reste sur le même enjeu en fait c'est du style tu crois qu'on a fini mais on n'a pas vraiment fini et là pour moi ça pose un problème de dans le temps. Parce que quelque part, t'as une action qui va continuer théoriquement avec d'autres joueurs autour de la table et ainsi de suite, hein, et t'as pas envie de suspendre le temps, dire « Attends, en fait, on va gérer, là, tu as parlé aux commerçants à midi, mais on va attendre minuit le soir quand tu vas rentrer dans ton église pour te faire péter la gueule, etc. » et continuer l'enjeu sur le plan physique. Ça, c'est un truc qui m'a un peu gêné aussi, du coup. Quelque part, t'as pas d'obligation de gérer un enjeu sur une scène.
Je pige pas très bien en quoi c'est gênant, en fait.
Parce que pendant ce temps, t'as peut-être d'autres joueurs qui ont envie de jouer. Ah parce que,
okay, parce que ça bloque en fait pour le reste.
Bah, d'accord, c'est ça,
j'avais pas compris ça.
Okay. On peut pas vraiment, vu la gueule des poules de dés, on peut pas vraiment dire laisse ton poule de dés sur la table, je reviendrai à
ouais,
toi.
Ouais, c'est ça, en fait.
Ou alors faut investir beaucoup parce qu'on jette beaucoup de dés. Donc je crois qu'il faut vraiment.
Non, mais genre, tu lances, je sais pas, 8 dés par exemple, tu peux pas dire j'ai jeté 8 dés pour cet enjeu et puis quand je le ferai progresser, je rajouterai tel trait. Enfin, tu vois, c'est un peu. La solution, c'est pas de le noter ou. Enfin, je sais pas si c'est faisable.
Bah, t'as une notion en fait, t'as une notion de suivi du conflit, c'est-à-dire de dire voilà, il peut y avoir un conflit qui amène quelque chose.
Si t'as deux pages à trois devant toi, tu peux
tout noter. Non, parce qu'il y a peut-être un truc plus élégant.
Non, mais il y a ouais, c'est ça. Normalement, tu peux voir des conflits qui vont s'enchaîner. Genre, le fait que tu aies fait ci entraîne telle conséquence derrière, donc la création d'un nouvel enjeu, etc. Mais si les enjeux sont bien délimités, entre guillemets, c'est là où. Bah, le fameux cannibale. Je vais voir le cannibale qui porte des vêtements féminins. Je définis que l'enjeu de la discussion, qui commence correctement, c'est il ce n'est pas bien de manger des gens, ni de mettre les dessous des gens que tu as mangés.
Ah, lequel en premier, ça ?
Ah bah, oui, bon. Et bah là, du coup, admettons, moi j'arrive à le convaincre par la discussion. Bah voilà, plié, pouf, au revoir.
Bah oui, mais c'est un peu...
Enfin, bah, dire, faut qu'il se batte, mon cannibale. Là,
ouais,
tu
dans
faut
ce cas-là, autant zapper la première partie, quoi.
Faut qu'il sorte lâche.
Non, mais dans ce cas-là, je t'ai dit, autant ne pas s'en remettre aux règles et dire, bon, on zappe la première partie. Vous essayez de le convaincre, ça marche pas. Il sort une hache.
Bah non, parce que justement, tout les mécaniques fait partie de ça. C'est que justement, quand toi, t'es en train de le convaincre, à n'importe quel moment, tu peux dire, bah c'est bon, en fait, il était en train de... tu croyais qu'il rangeait des affaires dans ses vêtements, genre, regardez, je range ce soutien-gorge qui ne m'appartient pas, il sort une hache. Et là, il enchaîne sur le conflit, effectivement. Du coup, je pense que si les enjeux sont bien posés, on peut résoudre assez rapidement, quelque part, les problèmes d'une ville, et qu'il n'y a pas tant de conflits de suivi, quoi, parce que théoriquement, le cannibale...
C'est un beau chapeau, que t'es boiteux et que tu parles bien,
ouais.
Tu vas avoir tellement de dés qu'en fait, tu vas résoudre les conflits super vite, en fait, c'est ça.
Ouais.
Enfin, tu vas dépasser tout de suite les difficultés, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors après, tu peux repousser, effectivement, les gens, comme j'ai dit, avec les systèmes de PNJ, moi j'ai testé donc le système rapide, et du coup, j'avais pas l'impression d'avoir énormément de punch face à mes PJ, sauf si je les poussais vraiment au travers de différentes phases, c'est de la guerre d'usure, quoi.
Alors, un truc dont t'as pas parlé, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait une partie, hein, de jeu, donc c'est pas une expérience.
Ah ouais, moi c'est pareil, j'ai fait deux séances.
Mais justement parce que moi, d'après comment je l'ai vécu, c'est vraiment un jeu dans lequel je ferai pas une campagne, tout simplement parce que je crois que c'est la seule fois où j'ai joué un personnage qui m'était foncièrement antipathique. Parce que ce que t'as peut-être pas...
À cause de ses convictions.
Alors voilà, je sais plus si tu l'as dit, mais le MJ nous l'a présenté comme ça, et il me semble que c'est tout le temps comme ça dans le jeu, c'est-à-dire que tu joues...
Des fascistes,
Non mais tu joues... les dogs, en fait, sont assez jeunes,
ouais.
Et en gros, ils arrivent avec toute la force de leur éducation religieuse.
C'est 2 mois de formation. En fait, tu vas en camp d'été, tu deviens un dog, au bout de 2 mois, tu repars avec un livre, avec un pot d'argile et un fusil.
Donc en fait, t'arrives avec plein de trucs, des trucs plein la tête, mais toi, t'as rien vécu, en fait. Et vraiment, en fait, nous, le scénar qu'on avait fait, c'était ça, c'est-à-dire, t'as tes convictions, t'as tes connaissances et tout, et puis paf, on va te confronter à la réalité.
Et tu fais la police des mœurs.
Et bien sûr, tu te rends compte que dans la réalité, un, c'est plus compliqué, mais surtout, tu vas appliquer des trucs qui ne marchent pas, c'est-à-dire je sais plus, il y avait eu un problème de coucherie, genre un mec qui devait se marier avec une nana mais finalement c'était pas possible, enfin bon je me souviens plus des détails, ça fait assez longtemps, comme les dogs sont la voix de l'autorité, on donne une solution et à la fin du scénario, après de nombreuses péripéties, la solution c'était en gros, donc on décide qu'un tel est coupable, un des deux qui voulait la nana, c'est lui qui est coupable, mais à la limite c'était un peu arbitraire, l'autre aurait pu être désigné coupable aussi. Et comment on va le punir ? On se dit, bon, alors on discute, bon, on va quand même pas le tuer, c'est un peu fort, hein, juste pour avoir convoité la femme de son prochain, ou lui couper les mains, bon. Et en fait, le MJ nous a un peu aidé parce qu'aussi on n'était pas trop cadré sur ces questions-là. On a fini par dessiner un truc qui était, ok, ce mec-là, il va être ostracisé pendant, je crois que c'était 6 mois, c'est-à-dire personne n'a le droit de lui parler. Si quelqu'un lui parle, il sera ostracisé à son tour. Enfin bon, voilà. Il y avait un système comme ça.
Enfin, plus personne.
Mais non, mais en fait, ça s'est super mal fini parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec était ostracisé. Donc il est allé vivre dans son coin, dans une cabane à l'orée de la ville. Et puis, en fait, la fille qui convoitait a fini par le rejoindre une nuit en secret. Sauf que du coup, elle n'avait pas le droit.
Et ils ont tous les deux ostracisés.
Et alors oui,
ils ont tué la femme.
Je me demande. Oui, je crois que ça s'est fini par des morts ou des membres tranchés quand même, parce que voilà.
Ouais, donc ça veut dire que vous n'avez pas vraiment réussi à chasser le démon, ou vous avez ouvert la porte à un autre démon, vous n'avez pas résolu le problème.
En fait, si tu veux, ça m'a mis très mal à l'aise, en fait, d'être dans la peau d'un type qui en fait est tout puissant, qui se pense tout puissant, alors qu'en fait
mais est-ce que c'est pas le jeu de rôle, ça,
c'est ça le truc, enfin,
ah bah oui, non mais je suis d'accord, mais après j'ai l'impression que ce jeu en particulier,
ah bah comme dit, c'est vrai, ouais. Quelle est la force de tes convictions, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour quoi,
oui.
Hein,
non mais c'est pour ça que
les convictions que tu n'as pas,
c'est un jeu très intéressant,
ouais, c'est ça le truc,
mais encore une fois
du coup là c'est du rôle, quoi, parce que
moi le personnage, si je veux jouer un gros facho je peux
en one shot j'ai trouvé ça vachement intéressant, je suis pas sûr de jouer un type comme ça sur une campagne.
Justement,
j'ai juste envie qu'il se mette une balle dans la tête.
En campagne, c'est un petit peu l'esprit que tu vas aller tourner dans une autre ville, tu vois un autre truc, admettons, quelques mois plus tard, tu repasses par cette ville et tu vas découvrir que peut-être que ce que tu as fait ou que tu as mal géré a été la graine d'un autre problème.
Alors moi j'ai une question.
Mais donc effectivement, donc combien de scénarios que ton personnage se suicide, en fait ?
Non, pas forcément, justement. Là, tu décris un personnage qui est comme ça initialement parce qu'il a 17 ans, qu'il a fait ses 2 mois de formation et qu'on lui a bourré le crâne d'éducation religieuse. Est-ce qu'il a la possibilité d'évoluer?
Bah, il évolue par le biais des retombées.
Lui, il évolue psychologiquement?
C'est tétré. Si tu, bah, comme je disais, si tu mets la haine des cannibales ou si tu mets du style, bah, j'apprends à tempérer mes ardeurs ou n'importe quoi, en fait, c'est par le biais des retombées.
Donc finalement, sur une campagne, tu peux te dire au bout de trois parties, tu t'en rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça et tu changes tes traits de fanatique religieux.
C'est un peu ça, ouais.
Je sais pas, tempérance exacerbée.
Ouais, tu peux tout à fait avoir
un refus, refus de conflit, tu peux
très bien avoir un personnage qui début, qui estime être genre Dieu me parle chaque nuit et qui au final en fait tu as perdu ce trait progressivement et l'a remplacé par je sais pas moi pragmatisme, je sais pas quoi.
Ça peut tout à fait arriver. Jeanne d'Arc, il a fait bon, je vais arrêter quand même.
Moi je me rappelle, j'ai eu un en fait chaque dogs non, quand tu fais la création des personnages, chaque dogs a une un petit quelque chose qui se passe pendant son initiation en fait, et en gros tu lui demandes voilà, qu'est-ce que tu veux avoir appris de ton initiation. Et c'est le premier enjeu, c'est le premier test qu'on fait, ça c'est intéressant parce que ça permet de découvrir la mécanique de jeu, même si c'est pas comme ça en un jet dès que tu arrives à la découvrir. Moi c'est au bout d'une ou deux séances les joueurs commencent à bien comprendre comment ça marche. Enfin des joueurs non matheux. Et j'avais un joueur, je lui ai dit bah voilà, il voulait aller combattre le péché et compagnie. J'ai dit ok bah voilà, le pêcheur c'est un vieux gars en fait, il est paresseux, il se lève tard le matin et il arrive à la bourre du coup même le dimanche au rite. Donc pas bien, tu vas aller lui parler.
Blam.
Et bah ouais justement parce que le personnage était de type bourrin. Et donc il va voir ce vieux qui est tranquillement dans son rocking chair en train de regarder son champ qui est super bien placé et tout, et ils ont une longue discussion, donc avec GD à l'appui, pendant lequel le vieux arrive à lui prouver par A plus B que ce champ c'est vraiment une bénédiction de Dieu, il est bien arrosé, tout pousse tout seul et compagnie, etc. Et en plus tellement il en remercie Dieu tous les jours que et tout l'excédent qu'il a qui ne lui sert à rien, il l'offre à la communauté. Et du coup, bah, à la fin, on se retrouve avec le Dogs qui lui aussi est dans un rocking chair avec une petite couverture, avec une petite couverture sur les genoux, et il y a la femme qui va amener des muffins, tu vois, et il contemple comme ça le soleil se coucher sur le champ de blé doré. Et en fait, le gars, du coup, il s'est arrêté là. Et il me dit bah ouais, mais
j'ai plus de motivation.
Mais il dit bah voilà j'ai pas réussi et tout. Ben non c'est pas que t'as pas réussi, c'est que voilà il t'a convaincu. Donc tu effectivement échoué à faire pour éliminer un pêcheur entre guillemets quoi, ou pour remettre un pêcheur dans le droit chemin. Mais ce qu'il comprenait pas c'était un style ouais mais c'est les dés qui disent ça. Non c'est toi qui as choisi de ne pas aller le chercher à 6h du matin le dimanche par la peau du cul, voire de l'amener en place publique et de regarder ça c'est un pêcheur et de l'abattre en place publique. C'est toi qui as fait ce choix là, c'est pas moi ou quoi que ce soit, ou c'est pas le résultat de GD. Tu as choisi de te plier, t'as choisi d'être faible entre guillemets quoi. C'est
pas d'être faible mais d'agir avec une pensée plus
voilà c'est ça, il a pas obtenu le résultat qu'il voulait. Et il avait son sentiment d'échec et compagnie quelque part, et je dis ben mais en fait pousse.
Va le chercher
si ça te convient pas comme issue, le jeu te propose justement de. Et là, je pense que le vieux, tu sors un fusil et compagnie, il chie dessus, bon, c'est vite fait quand même. mais il l'a pas, et c'est ça, il y avait une petite difficulté à.
Mais je pense que c'est un jeu qui est pas évident à appréhender. Non, moi, je l'ai eu entre les mains, j'ai essayé de le lire, parce que j'en avais beaucoup entendu parler il y a un certain nombre d'années. J'entendais beaucoup parler dans des podcasts américains à l'époque. Et je voulais savoir ce que c'était, donc je l'avais acheté. Et j'ai commencé à le lire. Et autant sur tout le côté background et le côté le début, tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant quand c'est commencé à arriver dans la mécanique de jeu. Et ben, le bouquin m'est tombé des mains.
Il y a beaucoup d'exemples, de scènes, de choses comme ça, mais c'est. Ouais, c'est bah,
ça m'est juste tombé des mains. Je trouve ça assez mal. Quoi. Au niveau de autant sur la première partie, sur le côté background et tout, c'est très sympa. Ouais. Et quand ça commence à arriver dans la mécanique, ben, je me suis dit, mais c'est beaucoup il sait pas écrire les règles. Quoi.
Non, on a beaucoup de répétitions.
C'est chiant à lire, c'est
chiant. Comme on va avoir dans Apocalypse World aussi, où tu as énormément de répétitions, de choses qui sont retournées dans tous les sens, etc.
Mais mal. C'est-à-dire que la répétition, c'est la base de la pédagogie.
Pour moi, c'est une des bases de la pédagogie, c'est pas la seule. Mais en l'occurrence, voilà, j'ai trouvé ça assez mal écrit au niveau des règles. Ouais. Et pourtant, des règles, j'en ai lu un certain nombre au cours de mon expérience. Des mal et des bien écrites, les deux. Mais ça du coup, j'ai pas fini le bouquin. Et donc, du coup, j'ai jamais maîtrisé ce jeu-là. C'est pour ça que je vais exploiter quelqu'un pour maîtriser pour moi.
Moi j'ai été joueur et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le mécanisme de conflit où vraiment on va chercher les arguments pour convaincre l'autre. Et moi je sais que j'y ai vraiment mis du cœur, tu vois, ouais, avec mon perso.
C'est ça qui est bien intéressant, c'est que ça peut être aussi bien quelqu'un va peut-être être plus dans la négo et justement avoir des arguments, quelqu'un d'autre va peut-être plus être dans le côté metteur en scène et décrire des choses de la situation, ce qui se passe autour, les gens, etc. Ça vaut autant en tant que notion d'attaque-défense, quoi, qui sont pas toujours facile. Ouais. Moi, c'est, le séquençage, j'avais du mal sur ça.
C'est vrai que, par contre, la mécanique, j'ai rien compris.
Ouais, bah, c'est ça, ouais, c'est
j'ai lancé les trucs qu'on me disait. Et... Ouais.
Je pense que c'est pour ça, ça m'est tombé des mains, parce que moi, en tant que MJ, j'arrivais pas à conceptualiser la chose et me dire comment je vais présenter ça à mes joueurs. Ouais. Parce que je trouvais ça vraiment pas clair pour moi. Après, je peux aussi être un bonnet qui comprend rien, mais
c'est pas facile. Ça fait partie des jeux que j'ai relu X fois avant de. Voilà, c'est, tu le poses sur l'étagère, tu dis ouais, bon, un jour tu reviens dessus, tu dis ah, quand même, faudrait peut-être que j'arrive, mais c'est pas facile quoi.
Bon, tu me rassures alors, je suis ouais. complètement.
Tiens, je vais revenir sur ce que disait Com. Quelque chose que je pense. Je sais pas si on avait déjà parlé de Théocalie ici. Je l'ai pas fait jouer en fait, mais Théocalie, ça te met un petit peu dans le même genre de rôle de gars surpuissant dans une société où les tabous ont été définis, mais sont au nombre de 6.
Dit-il en montrant 5 doigts avec une seule main. C'est excellent.
Mon sixième doigt, c'est le sixième doigt, c'est le micro. Tu l'as vu mon gros doigt?
Ouais. On va dire ça.
Et du coup, bon, là, ça restreint un peu la palette des tabous, mais chaque personnage doit classer. Donc chaque personnage qui est à peu près un juge élu, un peu doté de pouvoir magique, etc., va devoir classer ses 6 tabous selon un ordre de qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Et du coup, c'est intéressant parce que autour de la table, on va avoir des gens qui là vont devoir juger de concert, mais qui n'ont pas les mêmes priorités. Ouais. Un tel va peut-être avoir mis que le plus important pour lui, c'est de respecter les anciens. Un autre que c'est de ne pas tuer. Un autre que c'est de ne pas abîmer un corps, etc. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y jouer à ce jeu-là, et je pense que ça peut aussi mener des bonnes prises de tête entre personnages puissants, entre guillemets, et avec le pouvoir de juger. Voilà, bah, moi c'est à peu près tout pour moi, ouais.
Bah j'ai pas envie alors.
Ah, la thématique est particulière, le système de résolution est particulier.
Franchement, comme joueur, c'est cool. Moi,
pour quelqu'un qui lance des dés quand tu lui dis de les lancer, ça va quoi.
Bah oui. Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, moi,
mais c'est vrai, c'est.
Ouais, les réactions ont été. Il y a eu. Bon, j'ai fait 2 parties en fait, du coup. Enfin, deux parties qui ont essayé de se suivre à peu près. Et ouais, je pense qu'il fallait des bons débriefs pour bien comprendre les enjeux. Et là, ça vaudrait la peine de refaire une troisième séance pour continuer quoi.
Tu vois,
mais moi, ça, MJ, ça m'éclate pas vraiment quoi.
Tu vois, quand je compare en termes de mécanique assez touffu, si je prends un jeu comme au hasard Mouse Guard et donc son Burning Wheel en l'occurrence, qui est le grand frère. Mmh. Ou même Torchbearer plus récemment, ouais. C'est des mécaniques qui sont hyper structurées, présentées de façon méthodique, mais objectivement très bien présentées, avec une feuille de perso où tout est expliqué sur la feuille, t'as tout dessus.
C'est pas ça, là.
Voilà, c'est exactement pas ça. Bon, ils se connaissent, hein. Ils se connaissent bien, les gars, hein, mais ils se pratiquent tout ça, mais franchement, je préfère avoir des mécaniques qui sont très mécaniques, qui sont très présentes. Je préfère 100 fois un Burning Wheel, un Torchbearer, un Mouse Guard qu'un Dogs in the Vineyard. Après, le thème derrière de Dogs in the Vineyard m'intéresse vachement.
Ouais, le thème, l'objet, le fait que la mécanique supporte véritablement le thème du jeu, moi c'est ça que j'approuve. Maintenant, comme dit, moi je pense pas que je rechercherais particulièrement à jouer, même si je dis chapeau, parce que je trouve que ça va vraiment. En ce sens, mécanique qui suit le propos.
Bon, eh bien, écoute, c'est très bien. Koum, peut-être que tu peux nous faire un petit retour sur Sens.
Donc oui, alors Sens, bon, je crois qu'on en a déjà parlé autour de cette table, enfin normalement...
On en a parlé assez vaguement.
Ok, alors... De toute façon, c'est simple parce que moi, on me l'avait présenté assez vaguement aussi, hein, puisque je connais pas trop l'auteur ni la cellule et tout. Enfin, j'étais un peu à l'époque étranger à tout ça. Et on m'avait dit, ouais, tu vas voir, c'est un jeu de rôle un peu philosophique, sans dés et tout. C'est vachement bien, machin. Il y a 6 volumes, donc bon, il faut quand même un investissement. Hein. Et j'ai dit, ok, pourquoi pas, tentons ça. Et donc, ça fait un moment que j'y joue. Et là, on est à peu près à la moitié du jeu, c'est-à-dire qu'on vient d'entamer le troisième volet de Sens. Sachant qu'il me semble que c'est le dernier sorti pour l'instant.
Tout à fait. Tout à
fait. Donc on va bientôt rattraper le rythme de parution. Qu'est-ce qu'on joue dans Sens ? Alors à la base, au tout début de la grosse campagne, donc, on joue dans un univers post-apocalyptique. C'est-à-dire que, bon, je vais pas décrire parce que bon, le background est bien sûr très complexe, mais en gros, il y a un méchant qui s'appelle Miphos Kadria, qui a un empire, qui est très méchant, rien que de très classique, et sur la Terre, qu'il a bien sûr conquise, il y a une rébellion qui se bat contre lui. Et là où c'est un peu original, c'est que, en fait, Miphos Kadria, comment est-ce qu'il domine le monde, parce que l'univers, on va dire même, c'est entre autres par l'entremise de runes. qui sont au nombre de 6. Alors ce nombre de 6, on va le retrouver souvent hein, dans le jeu. Et en fait, grâce à ces runes, là encore je schématise, hein, c'est plus compliqué que ça bien sûr. Et donc Miphos Kadria, il a un espèce d'instrument, on va dire, qui s'appelle l'ombre monde. Et l'ombre monde, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un reflet de notre réalité. Et donc il peut voir en fait en se branchant à l'ombre monde, hein, pour le dire grossièrement, tout ce qui se passe n'importe où dans l'univers à ce moment précis. Donc en gros ça lui permet d'avoir une surveillance totale et complète de son empire et forcément d'écraser les petits malins qui essayent de faire de la rébellion. Sauf que c'est là qu'arrivent les personnages. Les joueurs incarnent ce qu'on appelle des bugs. Pourquoi ils s'appellent comme ça ? Parce que c'est justement des bugs dans le système. C'est-à-dire que c'est les seules personnes qui n'ont pas de reflet dans l'ombre monde. Donc c'est les seules personnes dont Miphos Kadria ne peut pas voir les actions. Pourquoi ils sont comme ça ? Ça fait partie des mystères du jeu. Et d'ailleurs, moi-même, à l'heure où je vous parle, je ne le sais pas. Le fait qu'ils ne sont pas visibles dans l'ombre monde, ça fait que toutes leurs actions ont forcément des conséquences. Et plus le temps passe, plus leurs actions, les conséquences de leurs actions s'étendent. Et c'est ce qui permet, par exemple, au début de la campagne, à la rébellion, d'avoir une base relativement bien cachée, puisque comme les bugs, ils sont présents, de par leurs actions, tu vois, comme tout ce qu'ils affectent. Tu comprends la logique, quoi.
Ça change la chaîne des causes et conséquences, et donc dans l'ombre monde, ce n'est plus tout visible exactement comme ça.
Tout à fait. Et il se trouve que les joueurs ont des espèces d'armures qui leur permettent déjà d'être beaucoup plus balèzes que la normale, mais aussi de passer dans l'ombre monde. Donc en fait, tu peux passer d'une réalité à l'autre, et ça te permet tout un tas de trucs, notamment de faire des déplacements en étant inaperçu, et aussi de te rendre compte de comment est la réalité dans cet ombre monde, c'est-à-dire comment est le monde sans les bugs finalement.
D'accord.
La campagne commence vraiment de manière très classique, c'est-à-dire qu'il y a les bugs qui sont dans la base de la résistance et ils vont devoir faire la guerre aux forces de Miphos Kadria sur la Terre. Donc ça commence de manière assez classique et puis bien sûr assez rapidement tu te rends compte que les choses sont un peu plus complexes, notamment parce que Miphos Kadria a des créatures qui s'appellent les Kadria qui elles aussi peuvent passer dans l'ombre monde et qui sont super balèzes, etc. Alors le principe de sens, c'est que c'est un jeu à secret, donc je vais pas trop en dire non plus. Et c'est aussi ce qui m'a rebuté à la base. C'est-à-dire que quand tu commences, il y a un gros côté série de J.J. Abrams. C'est-à-dire que t'arrives...
La merde, tu veux dire.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, t'arrives...
mais il lance plein de pistes tout le temps.
En fait ce qui est intéressant, c'est que quand la campagne commence, ton personnage, il a à peu près une vingtaine d'années. Ça fait 15 ans... Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, les personnages, les bugs, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, mais on ne sait pas non plus d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont été retrouvés pendant une bataille qui se passait à New York. Ils avaient 5 ans, on les a trouvés là, et puis on s'est rendu compte qu'ensuite ils avaient ces propriétés. Ce qui fait que toi, quand la partie commence, ça fait 15 ans que t'es dans la résistance. On te dit, c'est toi le héros, tu vas mener la résistance à la victoire grâce à tes capacités et tout. Vous êtes trop fort. Mais en même temps, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Ah non, mais là, vous n'êtes pas assez fort, vous allez vous entraîner, mais un jour, vous mènerez la résistance à la victoire. Donc ça fait 15 ans qu'on te bourre le crâne avec ça, la campagne commence, moi j'ai joué un peu...
Tu n'es pas prêt, petit scarabée.
Bah, c'est ça.
C'est Karate Kid.
Et en fait, moi, mon personnage, j'ai joué un peu l'avocat du diable, genre, mais moi, en fait, je m'en fous d'être un héros, quoi, j'ai juste envie d'avoir une vie tranquille, foutez-moi la paix, pourquoi est-ce que je devrais... Voilà, donc tout à fait. D'autant plus que effectivement, tu comprends assez rapidement qu'il y a des trucs mystérieux qui se passent et tout. Et quand tu demandes au type au-dessus de toi, mais lui, c'est qui ? Là, je sens qu'il y a un truc bien. Je peux pas te le dire pour l'instant, mais tu comprendras par toi-même.
c'est dans le sixième livre.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Et les premières parties, si tu veux, c'est ça toutes les 5 minutes. Et au début, j'étais là genre ouais bon.
Ça se dirigiste.
Et, en plus de ça, les scénarios sont encore plus au début, sont très très dirigistes. Il faut en fait passer ce premier obstacle et accepter ça en fait. Dire ok, l'histoire est suffisamment intéressante pour que je me laisse guider par le truc et on va voir ensuite ce qui se passe.
Ça dure combien de parties ?
En gros, nous on a joué, alors je sais plus, je crois que si j'ai bien compris, parce que j'ai pas eu accès au livre hein, du coup.
C'est secret.
Mais si j'ai bien compris, les livres sont divisés en épreuves et en gros par livre t'as 6 scénarios quoi, en gros.
Et t'en as joué
t'as
3ème bouquin, donc ouais. J'étais pas loin, j'étais 19. Ouais. C'était 18 en fait.
Et non, parce qu'on vient de commencer le 3ème bouquin, donc là 12. On en a joué une douzaine, enfin un peu plus parce qu'il y a des séances qui s'étalent. Mais en gros, à partir de la moitié du premier bouquin, tu commences à avoir des réponses. Et là, ça devient vraiment intéressant. Donc, Il faut durer un petit peu le truc. Pour résumer rapidement, à la fin du premier volet, si tout se passe bien, tu as réussi à ramener la paix sur la Terre. Mais bien sûr, ça suffit pas. Et bien maintenant, il va falloir péter la gueule à Bifo Scadria, parce que bon, il continue de foutre la merde partout dans l'univers.
D'accord.
Donc tu vas aller le chercher en premier là où c'est le plus proche, c'est-à-dire sur la Lune. Puisque dans l'univers de Sens, il y a une espèce de ville-monde qui est sur la Lune et tout autour. Et là, le deuxième volet, bon, clairement, il y a eu une baisse de régime. Pourquoi ? Parce que malgré le fait que tu as des grosses réponses à la fin du premier volet, où tu commences à comprendre un petit peu comment ça s'organise, quels sont les secrets et tout, tu fais « Ah oui, d'accord, je comprends mieux ça et ça, etc. Bah, » le deuxième volet, ça continue à être assez dirigiste. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives sur la Lune, on te dit « Bon, maintenant, tu vas diriger la résistance sur la Lune. Voilà, en gros, la Lune est divisée en 9 quartiers, lequel tu veux libérer en premier. » Et après, tu choisis plus ou moins, mais en fait, tu comprends qu'il y a des quartiers, tu peux pas encore les libérer avant d'avoir fait tel truc et tout.
Ils sont grisés sur la carte.
voilà, le deuxième point, bon, c'est un mini-spoiler. Et franchement, là, pour le coup, je pense que je vais faire fuir tout le monde en disant que le deuxième volume, il y a une très très grosse influence du Petit Prince de Antoine Saint-Exupéry sur l'univers de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, tu vas... les ennemis... que tu vas rencontrer dans ce deuxième volet sont inspirés de personnages que tu croises dans le Petit Prince.
C'est des renards avec des écharpes.
Donc le businessman, le marchand, etc. Ouais. Dans l'univers, à un moment, il y a un personnage qui te remet un exemplaire du Petit Prince. D'accord. Oui. Tu croises un renard qui parle, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça.
Ah oui, c'est pas juste une inspiration.
Non. Et donc, en fait, là, quand il y a eu ces éléments, on s'est dit, oh putain, oui. Alors là, bon, c'est chelou, quoi, on va dire. Clairement, nous, autour de la table, on n'a pas trop accroché à ça. Après, il y a quand même un peu plus de liberté dans ce deuxième volet, qui est bah, tu vas organiser la résistance, donc tu fais un peu ce que tu veux. Et ça a été assez sympa. Par exemple, nous, on a mis en place une figure de catcheur masqué qui s'appelait le Libérateur. Et qui faisait des matchs de catch pour inspirer les gens en fait à se rebeller, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque match ils faisaient et n'oubliez pas la résistance, etc. Bon, ça c'était assez marrant.
D'accord.
Et à la fin du deuxième volet, là pour le coup il se passe un truc vraiment très intéressant dont malheureusement je ne peux pas parler. Mais grosso modo le troisième volet c'est vraiment un game changer comme on dit dans le milieu. C'est-à-dire que en gros et là encore on vient tout juste de commencer le troisième volet, mais pour te dire pourquoi je te dis on vient toujours de commencer, parce que le troisième volet a commencé par une création de perso. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du deuxième volet, tu changes de personnage, et le troisième volume, c'est un jeu dans le jeu, qui va être dans une espèce d'univers un petit peu médiéval fantastique, c'est le dire vite.
Ouais, tu joues d'autres créatures.
En fait, tu vas dans un monde virtuel à l'intérieur du jeu.
Tu joues plus de bugs, en fait.
Plus ou moins, ouais. C'est plus ou moins ça, et ça a l'air vraiment très très intéressant. Comme monde, c'est pas un bête monde médiéval fantastique qu'il a plaqué comme ça pour faire cesser.
Non, parce que les créatures que tu joues n'ont pas les mêmes sens, n'ont pas les sens humains, elles ont des sens supplémentaires.
Oui, et en plus, elles sont introduites bien sûr avant dans le jeu, donc il y a quand même une logique. La spécificité aussi de Sens, c'est que c'est un jeu sans dé. J'allais dire sans règles, mais non, il y a des règles. T'as une feuille de perso sur laquelle t'as des caractéristiques chiffrées et tout. Alors d'ailleurs, on se souvient encore de la compétence saumon. Bah, là, t'as 6 attributs qui sont les 6 runes. Donc t'as mort, néant, cosmo, vie, création et chaos. Et chacune correspond plus ou moins à un aspect de ta personnalité. Et en fait, t'as des valeurs chiffrées là-dedans. Et c'est quand tu veux faire quelque chose. Alors moi, je te parle du côté joueur, hein, du côté MJ, je sais pas comment ça se passe. Mais quand tu veux faire quelque chose, le MJ va te demander ok, bah, t'as combien en tel score. Et selon ton score, tu réussis ou pas ton action. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Ça, c'est pour les combats, pour les interactions et tout. Donc du côté joueur, c'est extrêmement agréable parce que vraiment, c'est très fluide en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ton perso est défini par une série de faits que tu inscris au fur et à mesure de ta progression. C'est-à-dire qu'au début, au tout début de la campagne, quand tu commences, tu dois avoir, je crois, une vingtaine de faits. Mmh. Et t'es encouragé à chaque scénario à rajouter, il me semble que c'est 5 faits qui peuvent être vraiment des trucs très basiques, genre j'ai pété la gueule à machin, ou alors des trucs un peu plus réflexifs, du genre je me suis aperçu que la violence c'était pas bien, ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est pas tout à fait dit, enfin le MJ nous l'a plus ou moins fait comprendre, que ces faits-là, selon ce que tu mets comme fait, ça va influer sur tes échelles d'attributs. Par exemple, si tout est fait, ça tourne autour de trucs du genre mais à quoi bon vivre, tous mes compagnons meurent autour de moi, j'ai envie de tout casser, des trucs comme ça, bah tu vas avoir des gros scores dans les valeurs un petit peu de destruction, de violence et tout.
D'accord.
Alors que, voilà. Alors que si t'es fait, ça va être plutôt j'ai réglé tel conflit par la parole, je cherche à en savoir plus sur telle question, etc. Bah, c'est d'autres trucs qui vont augmenter. Donc ton personnage se raffine comme ça au fur et à mesure des,
à mesure des scénarios. Alors, comment ça se passe du côté du MJ
Eh bien, je ne sais pas.
tu n'en as pas causé avec lui, voir comment il le gère
Alors, ce que je sais, c'est que notre MJ est en contact régulier avec
Romaric.
Avec Romaric, parce que c'est pas toujours extrêmement clair dans le livre. Apparemment, d'après ce qu'il nous a dit, ça s'améliore de livre en livre. C'est-à-dire que le premier est un peu nébuleux, mais aussi parce que bon, bah, c'est quand même assez particulier comme manière de jouer.
Oui.
Le deuxième, c'est mieux. Et d'après ce qu'il nous a dit, le troisième, pour l'instant, est le meilleur, est extrêmement clair, etc. À tel point qu'il redoute un peu comment on peut faire mieux pour le quatrième. Quoi. C'est ce qu'il nous a dit.
Okay.
Donc, malgré le côté dirigiste, etc., pourquoi ça marche ? Parce que bon, il y a des côtés méta-narratifs dont j'ai pas trop parlé parce que ça fait partie des secrets du jeu.
Ouais.
Mais ça t'incite un peu aussi à te faire réfléchir sur bah, c'est quoi une partie de jeu de rôle, incarner un personnage, le libre arbitre, tout ça. Enfin, il y a des questions intéressantes autour de ça.
C'est plutôt sur le troisième volume, ça ou...
Même avant, c'est introduit. Disons que, comme en plus, moi, on m'avait présenté le jeu comme ça, tu le sens un peu venir de loin, si tu veux. Quand on te dit, il y a dans l'univers 6 runes qui s'appellent machin, et c'est les noms de tes attributs. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y a le fait qu'en plus des faits de ton personnage, tu peux aussi inscrire des faits de joueur. C'est-à-dire, quand tu crées ton personnage, tu inscris des faits qui te concernent toi. Et y a une petite mécanique, alors nous, qu'on met pas trop en pratique, parce qu'on n'en a pas vu l'utilité, mais apparemment c'est possible, tu peux dépenser des jetons que tu gagnes en faisant du roleplay, etc., pour activer un fait de toi en tant que joueur et pas toi en tant que personnage. Ça permet à ton personnage de faire des choses qu'il ne saurait pas faire. Par exemple, moi, comme fait de joueur, j'avais mis j'adore tout ce qui est voyage dans le temps. Et à un moment, il y a eu une question comme ça de voyage dans le temps, ce que mon personnage ne sait même pas ce que c'est. Et j'ai activé le fait de joueur, et là, mon personnage a commencé à déblatérer pendant 10 minutes sur le voyage dans le temps. En convaincant tout le monde autour de lui, et quand il a eu fini, il est là, oula, mais qu'est-ce que j'ai dit là, ça sortait d'où, c'était un peu bizarre. À côté de ça, je trouve que les personnages
ça se joue comme ça ou ça, c'est ça... ton interprétation
Moi j'ai l'impression que ça se joue comme ça, mais encore une
d'accord.
fois, je te dis ça, on a dû le faire deux fois en 15 séances, donc
d'accord.
Parce que après voilà, j'ai pas parlé des systèmes d'immersion, mais normalement t'as les systèmes d'immersion positifs, donc quand tu fais du roleplay tu gagnes des jetons qui te peuvent te permettre d'activer ces trucs là, et puis des jetons d'immersion négatifs quand par exemple tu fais trop de blagues autour de la table, tu parles de passe-moi les chips alors que voilà machin, du dernier film que t'as vu alors que tu devrais être dans la partie, tu gagnes des points d'immersion négatifs. Voilà, tu casses l'ambiance, tu gagnes des points d'immersion négatifs qui vont te donner des malus sur tes scores. Le truc c'est que nous, comme notre MJ fait aussi des remarques hors jeu, du coup on a fini par dire ok bon, tant pis, on va essayer de se mesurer par nous-mêmes. Et après, je trouve que pour finir, les personnages non joueurs sont vraiment très bien. Enfin, ils sont complexes. Au début, il y a ce côté, ils sont tous super secrets, ils veulent rien nous dire, ils font chier. Et puis, en fait, tu te rends compte, enfin, tu peux développer des trucs assez complexes. Et franchement, ça fait partie des rares jeux de rôle où, au bout d'une demi-douzaine de séances et a fortiori maintenant, il y a vraiment des liens très très forts entre les différents personnages qui sont parfois opposés, mais parfois ils s'entraident, etc. Les personnages non joueurs qui sont aussi assez creusés, qui ont souvent un passé assez fouillé, bah, qui a à voir avec l'univers de jeu lui-même. Donc il y a quelque chose de vraiment très très riche, quoi. Alors après, bon, bah, la question c'est, là on en est à la moitié, est-ce que ça va tenir le coup jusqu'au bout, et surtout est-ce que la fin ne sera pas décevante, parce que il y a quand même quelques trucs qui restent un petit peu dirigistes. Par exemple, le grand méchant, on l'a croisé deux trois fois, et à chaque fois c'était je suis super puissant, donc je vous arrête d'un claquement de doigts, mais je ne vais pas vous tuer car ce serait trop facile.
Moi,
vous êtes tellement insignifiant que je vais vous laisser faire vos trucs dans votre coin parce que je ne me soucie pas de vous. Et,
on trouve un côté un peu chevalier de Zodiac.
Ouais, voilà, il y a un peu un côté comme
c'est
ça.
C'est quelque chose qui est assez cher à Romaric.
Voilà, ouais, tout à fait. Donc bon, encore une fois, ça peut rebuter, mais je pense qu'une fois qu'on accepte ça, le côté un peu épique, etc. et les barrières peut-être un peu artificielles, c'est vraiment un bon moment de jeu qui demande, il faut bien le dire, quand même un investissement assez lourd, puisque ça fait une quinzaine de séances de 3 heures à chaque fois, et on en est au 2/6.
Ok.
Ok.
On vient d'avoir.
Merci.
On a un roi.
Voilà.
Voilà, parce qu'on...
pour avoir un super subterfuge pour dire que si jamais vous avez vous écoutez ce podcast seulement en janvier, on pourrait presque essayer de faire croire qu'on l'a enregistré début janvier parce qu'on a une galette pas bonne.
Tout voilà. Bon, eh bien, écoute, merci pour ce retour très intéressant.
Alors, j'ai sans doute dit plein de conneries, oublié plein de trucs parce que j'avais pas préparé. Donc, n'hésitez pas à m'engueuler dans les commentaires, ils sont faits pour ça.
Voilà, et comme et ça, puis, tu pourras préparer une vraie chronique la prochaine fois.
Tout à fait, pour me faire pardonner.
Voilà.